franceinter.fr.
L'environnement social joue un rôle important sur l'évolution des maladies, y compris des maladies non transmissibles comme le cancer. Et c'est notre sujet aujourd'hui à la une de la science, Catherine de Copé.
Rester isolé pourrait faire progresser plus vite la pathologie que vivre entouré. C'est du moins une des hypothèses d'une étude publiée le 3 septembre dernier dans Nature Communications qui s'est intéressée au comportement de mouches atteintes de cancer. De quoi ouvrir des pistes intéressantes de recherche pour l'être humain, même si pour l'instant il est impossible de transposer ces résultats justement aux êtres humains. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite grâce à notre invité, Frédéric Méry. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche en biologie du comportement au CNRS, au laboratoire Évolution, Génome, Comportement et Écologie, et vous co-signez donc cette étude. Vous avez pris comme modèle d'observation la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster de son petit nom, et vous avez constaté que ces mouches, quand elles sont atteintes de cancer, elles voient leur maladie progresser plus vite si elles restent seules. C'est bien cela ?
C'est exactement ça. En fait, on utilise un modèle, donc c'est une construction génétique grâce à la drosophile. En fait, on peut faire des constructions génétiques assez...
C'est vrai que c'est une mouche génétiquement modifiée, en fait.
Génétiquement modifiée, exactement.
On l'expliquera peut-être un peu la méthode après.
Dans laquelle on peut induire un cancer. Et ce qu'on observe, c'est ce qu'on voulait s'intéresser, c'était est-ce que l'environnement social affecte la dynamique de l'évolution de ce cancer. Donc on est un peu loin de la...
De la physique quantique.
De la physique quantique. mais c'était voir, voilà, exactement comment l'environnement social pouvait affecter le développement du cancer. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'était que quand une drosophile était... donc qui allait développer un cancer... était en isolation, la dynamique d'évolution des tumeurs était beaucoup plus rapide que quand elle était gardée en groupe. Et d'autre part, la structure du groupe aussi impacte l'évolution du cancer.
Alors ça veut dire que la mouche malade, quand elle est en groupe, en fait ça dépend de la nature du groupe, l'évolution de sa maladie, c'est ça, hein,
voilà, en fait, quand les drosophiles cancéreuses vont développer des tumeurs sont ensemble, la progression du cancer est diminuée par rapport à une drosophile qui serait en groupe avec des drosophiles non tumorales.
Donc des mouches malades ensemble voient leur tumeur se développer moins vite.
Exactement.
Que celle qui est malade et qui serait confrontée à un groupe de mouches saines.
Et donc ce qu'on montre aussi dans cette étude, c'est qu'il y a une forme de rejet. Le problème, c'est l'isolation sociale. Donc, on voit que quand une drosophile est toute seule, elle développe aussi le cancer de façon, les tumeurs se augmentent de façon assez rapide. Et quand elle est avec un groupe de drosophiles non cancéreuses, elle aussi a ce développement assez rapide. Et ce qu'on observe, c'est un effet de rejet social. Des drosophiles non cancéreux. Donc une forme de recognition des drosophiles.
Oui, alors ça veut dire justement, Frédéric Méry, que vous avez observé dans cette étude le fait que les mouches peuvent reconnaître si leurs congénères sont malades ou pas, c'est ça ? Ça c'est un énorme pas ?
Donc il y a deux phases. C'est à l'état... parce qu'il y a aussi... on sait que ces drosophiles vont développer le cancer, ça c'est sûr. Et on voit qu'à l'état jeune, les drosophiles qui vont développer le cancer ont tendance à se regrouper. Et par contre, à l'état évolué, quand il y a déjà le cancer, elle s'évite.
Pour l'instant, on est incapable d'expliquer pourquoi il y a ces choix entre guillemets, qui sont faits par les drosophiles.
Est-ce que c'est dû juste je suis une drosophile malade ou pas, ça on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il y aurait un système
de reconnaissance au fond de la maladie chez les individus.
De la maladie chez les individus.
Et alors, pourquoi la mouche drosophile reste un modèle biologique idéal en fait pour faire ce type de recherche ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez procédé, parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas évident d'imaginer comment on observe des mouches.
Alors nous, dans notre laboratoire, ce qui nous intéresse le plus, c'est de comprendre comment les interactions sociales affectent le comportement et la physiologie des individus d'un point de vue évolutif. Et le modèle cancéreux est intéressant. Et forcément, si vous dites à un humain qu'il a un cancer, ça va changer son comportement, ou en tout cas il y a des multifacteurs qui font que c'est difficile de dissocier pourquoi est-ce que on évolue le cancer ou pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas le cancer. La drosophile, c'est un modèle génétique génial pour ça, parce que vous pouvez faire des drosophiles qui vont faire du cancer.
Et on peut induire. Voilà, vous induisez le cancer génétiquement et ensuite vous utilisez un système de vidéo pour observer leur
exactement.
Mouvement.
Exactement.
Alors pourquoi aujourd'hui il est quasiment impossible de transposer justement ces résultats aux êtres humains? Vous avez commencé peut-être à nous répondre. Il serait tentant de le faire finalement, de lier cancer et interaction sociale. Pourquoi on ne peut pas le faire?
On pourrait. Forcément, on est un peu tenté de le faire, mais je pense qu'on est encore très loin de voir les relations entre les drosophiles et les humains, et à cause de ces facteurs, à cause du fait qu'il y ait trop de facteurs finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce que quelqu'un va développer un cancer chez l'homme ou pas. Est-ce que c'est parce que vous buvez, vous fumez ou tout ça? Et pourquoi est-ce que tout ça? Donc c'est là que ça devient compliqué. Après il y a des études qui proposent que l'isolement social ou le sentiment d'être socialement isolé affecterait la dynamique d'évolution du cancer.
En tout cas, chez la mouche, c'est visible. C'est ce que vous avez observé dans votre laboratoire.
Qui ne sait pas qu'elle a un cancer.
Absolument. Et ça fait l'objet d'une publication dans Nature Communication. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Frédéric Méry. Jean-Philippe Uzan, Frédéric Méry, disons, on est très très loin de la physique quantique. Je suis sûr que vous pouvez nous trouver du quantique là-dedans, vous.
Non, mais non, je peux dire une chose quand même. Ce qui est intéressant, c'est l'effet de l'environnement. En fait, en physique, on a cette attitude de toujours avoir un système isolé à l'infini et tout ça. Et en fait, dès qu'on commence à regarder un système dans un environnement, des fois, il change de comportement. Un exemple souvent que je donne, c'est vous prenez un neutron. Ça, c'est une des particules. C'est une particule qui, quand elle est à l'état libre, a une durée de vie de 880 secondes. Vous la mettez avec des protons et des neutrons, ça fait un noyau et il devient stable. Donc, elle est instable à l'état libre, elle est stable dans un noyau. Et donc, voilà, en fait, l'effet de l'environnement est quelque chose de très difficile à décrire en science, encore plus quand c'est dans des disciplines comme la biologie, parce que là, à l'état simple, on ne sait pas modéliser, on n'a pas vraiment des objets fondamentaux comme des particules. Mais même en physique, l'effet de l'environnement est quelque chose de très, très difficile à décrire.
J'étais sûr que vous alliez nous trouver quelque chose, Jean-Philippe Puzan. Il s'en sort toujours.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre la physique et la biologie.
Restez.
La mouche et physique quantique, c'est le titre le plus improbable.
Les bases doivent être...
Bien sûr.
Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Méry, et vous qui êtes donc de ce laboratoire évolution, génome, comportement et écologie. Catherine de Copé, merci.
Merci Mathieu,
à bientôt.